Europe 1.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Avec Fabrice Dalméda jusqu'à 21h, nous entrons dans les coulisses d'un palais que le monde entier nous envie, là où l'histoire s'est forgée entre intrigue et splendeur de la cour, Versailles. Mais avant de suivre Madame de Maintenon, l'épouse secrète de Louis XIV, on va pénétrer dans l'appartement des reines, un de nos joyeux.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Là, vous êtes dans un bijou, qui est cette petite chambre de la reine, donc avec ce tissu ravissant dans un bleu vert. À la fois, c'est un raffinement extrême, c'est le goût du luxe sans doute, mais dans des proportions toutes petites. À côté du château de Versailles, ça paraît une maison de poupée.
C'était Catherine Pégard, la présidente du domaine de Versailles, qui présentait la maison de la reine et son appartement dans les jardins du Trianon. Or, cette année, un événement extraordinaire se déroule, la réouverture du grand appartement de la reine dans le château de Versailles. Cela faisait plusieurs années que ces salles étaient fermées, elles ont été refaites au goût de la dernière occupante, Marie-Antoinette. L'occasion pour nous de revisiter l'histoire de France à travers ses murs, à travers les murs de ce grand appartement, en essayant d'abord de revenir sur l'aménagement qu'a voulu la dernière grande reine de France, et en grattant un peu sous les tentures, essayer de retrouver le goût de sa grande prédécesseur, Marie Leszczyńska, qui, au début du XVIIIe siècle, a été sa plus longue occupante. Voilà le défi, visiter l'histoire de France comme dans un grand appartement. Et je vous emmène au cœur du château de Versailles. Notre histoire commence paradoxalement à la fin d'une époque. C'est au petit matin, vers 6 heures, le 6 octobre 1789, alors qu'une brume épaisse recouvre l'immense parc du château de Versailles, que commence notre récit. Dans sa chambre, allongée sur un vaste lit, la reine Marie-Antoinette a les yeux fermés, mais elle ne dort pas vraiment. Cela fait plusieurs semaines qu'elle a perdu le sommeil, tant les troubles de son pays sont graves, et tant elle est inquiète pour l'avenir de sa famille. Tout à coup, elle entend des cris au lointain, des hurlements, des pas précipités, puis des bruits de métal, comme une grille que l'on forcerait, comme des portes que l'on pousserait. Un fracas qui progressivement devient assourdissant. Tout près d'elle, le chaos est en train de s'installer. Cette agitation provient-elle du rez-de-chaussée, de la cour du château, voire du parterre du midi sur lequel donne le grand appartement? Difficile à dire. Pourtant, on sent qu'une foule est là, impatiente, effrayante. Marie-Antoinette redoute ce moment qui s'annonce terrible. Le peuple est décidé à ramener la famille royale à Paris. Une peur paralysante s'empare d'elle. Que faire? Doit-elle tenter de fuir? Est-il encore temps? Peut-elle encore compter sur la garde royale pour s'enfuir? Une voix la tire de ses réflexions. C'est celle de Madame Thibault, l'une de ses femmes de chambre. Paniquée, cette jeune gouvernante sait que la foule a forcé les grilles de la cour des princes et pénétré l'appartement de Marie-Antoinette par la cour royale. Les émeutiers tentent actuellement de s'avancer dans la salle des gardes, la pièce qui se situe à l'entrée du grand appartement de la reine. Certains des soldats ont déjà été massacrés. Ces hommes étaient là pour protéger la reine. Ils ont été assassinés, le danger est imminent. Il faut réagir! Écoutez le récit que Madame de Campan, la première dame de chambre de Marie-Antoinette, a fait de cette situation. Elle n'était pas présente, mais elle a reçu plusieurs témoignages directs.
Arrivée à la chambre de la reine, sa femme de chambre lui cria « Sortez du lit, madame, ne vous habillez pas, sauvez-vous chez le roi !» La reine, épouvantée, se jette hors du lit. On lui passe un jupon sans le nouer et ses deux dames la conduisent vers l'œil de bœuf, cette antichambre de l'appartement royal. Une porte du cabinet de toilette de la reine qui tenait à cette pièce n'était jamais fermée que de son côté. Quel affreux moment! Elle se trouva fermée de l'autre côté. On frappe à coups redoublés, un domestique d'un valet de chambre du roi vient ouvrir. La reine entre dans la chambre de Louis XVI et ne l'y trouve pas. Alarmé pour les jours de la reine, il était descendu par les escaliers et les corridors qui régnaient sous l'œil de bœuf et le conduisait habituellement chez la reine sans avoir besoin de traverser cette pièce.
C'est ainsi que la famille royale a pu se réunir dans l'appartement du roi et échapper à la mort, du moins pour le moment. Marie-Antoinette et Louis XVI l'ignorent encore, mais cette nuit effroyable sera la dernière qu'ils passeront au château de Versailles. La présence royale s'éteint dans les couloirs du palais, c'est le crépuscule de la monarchie. Le couple royal sera fait prisonnier, puis on le présentera à l'échafaud quelques années plus tard. Paris redeviendra la capitale du royaume. Une page de l'histoire de France se sera tournée.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Dans un instant, Fabrice Dalméda continuera à évoquer celle que l'on surnommait l'Autrichienne Marie-Antoinette, celle qui a vécu pendant 16 ans sous les ors du château de Versailles.
20h, 21h,
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Jusqu'à 21h avec Fabrice Dalméda, on visite l'histoire de France comme dans un grand appartement. Il nous emmène ce soir au cœur du château de Versailles, dans l'intimité des reines.
Depuis plus d'un siècle, Versailles incarnait l'image de la monarchie absolue et puissante, un pouvoir qui se reflétait dans les murs du château. Chacun à leur tour, les souverains et les souveraines ont marqué de leur sceau les 2000 pièces de ce palais. En découvrant ce décor, les femmes et les hommes de Paris, venus arracher le souverain à Versailles les 5 et 6 octobre 1789, ont, paraît-il, été stupéfaits par la beauté des lieux. Mais au fait, cet appartement somptueux qu'ont découvert les révolutionnaires, celle qui l'a aménagé, qui l'a décoré, qui est-elle exactement ? Revenons sur ce personnage, arrivé en France depuis son Autriche natale, ce qui lui valut le surnom cruel de « l'Autrichienne ». En mai 1773, lorsque la jeune princesse impériale et archiduchesse d'Autriche s'installe à Versailles, elle n'a que 18 ans. Marie-Antoinette va vivre pendant 16 ans sous les ors du château de Versailles. Elle s'installe à son arrivée dans le grand appartement de la reine, car l'épouse de Louis XV était déjà morte avant son arrivée. Cette suite de salles a été construite en symétrie parfaite avec le grand appartement du roi, tant en termes de distribution que de décoration. C'est l'un des lieux les plus prestigieux du château. C'est ici donc que se déroulent les repas de Louis XVI et de Marie-Antoinette, suivant un rituel fastueux qui attirait énormément de public. Seuls les membres de la famille royale pouvaient prendre place à table. Les souverains tournaient le dos à la grande cheminée. Marie-Antoinette se tenait à la gauche du roi. En face des souverains étaient assises les duchesses, princesses ou titulaires de grandes charges ayant le privilège du tabouret. Puis demeuraient debout les autres personnalités et dames qui, par leur rang ou avec l'autorisation des huissiers, avaient pu entrer. Mais Marie-Antoinette, qui aime les divertissements et la musique, n'apprécie pas le protocole strict de la cour. Elle le juge austère, voire intrusif. Contre cet ennui, la reine exige que les repas soient pris en musique. Une tribune a donc été aménagée pour recevoir un orchestre et des musiciens. La reine comprend qu'en étant diplomate, elle pourrait façonner Versailles à sa main. Mais quelle est la vraie passion de Marie-Antoinette ? Peut-être est-ce les arts décoratifs. Alors, pour rendre ses salles d'apparat un peu chaleureuses, elle va s'occuper de décorer ses pièces. Elle commande de somptueux ensembles mobiliers d'un style naturaliste et antique. Elle s'entoure de boîtes en lac et en porcelaine. Elle installe dans ses appartements des objets qui proviennent du Japon. Et oui, elle est déjà fascinée par l'Asie. Malgré cela, elle estime que les pièces du grand appartement restent dépourvues de charme et de chaleur. Le cérémonial exigé par son nouveau rang ne l'aide pas à se sentir à sa place et en confiance. Elle fait alors aménager de magnifiques cabinets intérieurs dont l'accès est encore plus réservé. Ils sont situés derrière le mur d'alcôve de sa grande chambre et au second étage du corps central, ainsi que dans un petit appartement donnant directement sur la cour de marbre. On y accède par un escalier dissimulé qui arrive directement depuis le premier étage à l'abri des regards. Tout au long du XVIIIe siècle, ces petits appartements vont évoluer en fonction du goût des souveraines et de leurs besoins. Marie-Antoinette les utilisait pour ses besoins strictement privés, mais aussi pour le service de ses femmes de chambre. Entrons dans son intimité, dans le grand cabinet intérieur. La reine veut rajeunir son mobilier et souhaite innover. Mais elle ne cesse de changer d'avis. Elle voudrait y mettre une soirée extraordinaire, un tissu précieux en satin blanc, broché d'arabesques de fleurs et de médaillons. Ce sera la tonalité du cabinet. Les rideaux, les portes, tentures murales, les garnitures de sièges, le paravent en seront recouverts. Les soyeux de Lyon se mettent à l'ouvrage et fournissent à la reine un produit de très grande qualité. Marie-Antoinette est satisfaite. Mais 4 ans plus tard, elle estime que ce tissu devrait être mis en boiserie, c'est-à-dire encadré dans des bois sculptés, un art décoratif très en vogue à l'époque. La réalisation de ces boiseries est confiée aux frères Rousseau, les meilleurs sculpteurs et ornementalistes de leur temps. Aujourd'hui encore, dans le grand intérieur ou dans le cabinet doré, on peut admirer ces décors créés par les frères Rousseau, première étape d'un renouvellement de l'appartement de la reine. Ces artistes hors pair ont couvert les murs de boiseries avec des roses, des paons, des sphinx et des colliers de perles. Mais la reine ne s'occupe pas que de son propre mobilier. Elle en use aussi pour faire des cadeaux. On le voit par exemple dans une lettre qu'elle écrit au comte de Mercy.
« J'ai demandé au roi, monsieur, l'argent qu'il voulait mettre